Le carillonneur, troisième partie. L'action. Chapitre 1. Au-dessus de la vie. Yoris se raccrocha à ce cri, l'énonça tout haut, l'inscrivit pour ainsi dire dans l'air nu devant lui. Il se le répéta comme un ordre, comme un appel au secours avec lequel il pouvait se sauver lui-même. Toujours ça avait été sa devise, l'hosanna du ralliement de soi, la conclusion de ses peines, jaillissant d'entre elles comme l'eau d'entre les rochers. Certes, après la tragique scène et le départ de Godelive, il resta désemparé. Il lui sembla, tous les jours suivants, que la maison était morte. Elle avait sombré dans du silence. Toute l'allée est venue, le bruit des pas et des voix avait cessé. C'était à présent comme une demeure mortuaire où l'on se tait, où l'on craint de marcher. La pièce dans laquelle s'était passée la querelle finale resta toute en état. Le parquet, jonché de débris, la glace fendue de la large blessure qui continua à s'approfondir, a balafré d'un coup mortel cette pâleur de miroir. Personne n'y avait plus pénétré. Elle demeura close, la porte condamnée et fermée à clé. C'était vraiment la chambre du mort, devant laquelle on frissonne sans oser y entrer. Barbe, d'ailleurs, ne quitta plus ses appartements, s'y fit servir les repas, confinée là, solitaire et farouche, dans une grande prostration. La découverte de la preuve, enfin tenue, sa grande colère, ses excès sauvages, la fuite de Godelive, partie dès le lendemain, à l'aube, sans la revoir. Tout cela avait tordu et emmêlé ses nerfs comme les cordages dans une tempête. Maintenant, une lassitude infinie remplaça l'exaspération aiguë. Elle n'était plus hérissée et colère. Elle se blottissait dans des coins, frileuse comme une bête malade, le sang refroidi. Elle errait dans l'escalier, dans les corridors, livide, la face ravinée de larmes. Parfois encore, quand elle y rencontrait Yoris, par hasard, son irritation revenait une seconde, s'exprimait en quelques mots violents, grossiers, jetés après lui comme une pierre. Mais elle n'avait plus la force, elle ne lançait plus qu'une seule pierre, comme si le soir tombait et que sa vengeance fût trop lasse. Yoris, lui, s'isola de son côté, l'évita, n'éprouvant plus que de l'indifférence pour elle. Consciente ou malade, elle l'avait trop fait souffrir, vraiment. Même il ne put se défendre d'une rancune désormais, puisque, impuissante à le rendre heureux, elle venait de briser le cher et dernier amour qui lui fut un baume et un recommencement. Comment se consoler d'être seule encore une fois? Comment oublier cette Godelive en allée de sa vie? Elle l'avait aimée pourtant, et elle était partie. C'était irrémédiable. D'abord, il s'enquit d'elle. Personne ne savait le lieu de sa retraite. Peut-être n'était-elle pas entrée au béguinage de Dixmude, comme elle l'avait dit, mais s'installa en quelque autre ville où bientôt elle l'appellerait. Était-il croyable qu'un amour comme le leur finisse si vite et sans cause? Oui, c'est vrai, il y avait Dieu entre eux. Depuis l'alarme d'une maternité possible, les avis du confesseur, le péché mis à nu, l'enfer présagé, Godelive s'était soudain détachée et reconquise. Mais sans doute que l'absence opérait en elle. Il était impossible que le souvenir du baiser, en marchant, ne la suivît pas. Et le souvenir redevient vite le désir. Yoris attendit, regretta, espéra des nouvelles et une rechute, un jour, de leur amour. Mais tout était bien consommé. Il le sut par une amie de Godelive, à qui elle écrivit enfin qu'elle s'était faite béguine. Au-dessus de la vie. Yoris se raffermit, s'exalta en s'appuyant à ce cri. Il avait été vaincu, entravé deux fois par l'amour. Tous ses chagrins provinrent de là, Barbe d'abord, Godelive ensuite. Chacune l'avait fait souffrir à sa manière, et, en le faisant souffrir, diminua sa force, son élan contre la vie, sa supériorité sur les autres hommes, son don de création et d'art. Puissance redoutable, pouvoir astral de l'amour. L'homme est sous l'influence de la femme comme la mer sous la lune. Yoris avait souffert de ne plus appartenir, d'être en proie à ce quelque chose qui est capricieux, change sans cesse, évolue, sourit, puis s'assombrit dans des nuages et des éclipses. Vie en suspens. Pourquoi ne pas s'affranchir et se posséder enfin? Qui sait, cette souffrance par la femme est peut-être la marque du héros, l'expiation pour tous les êtres sensitifs, exquis et forts, et trop beaux, la rançon des grands rêves et des grandes dominations, comme s'il fallait, après tant de victoires sur l'art ou sur les hommes, ce rappel de la misère humaine, et que le vainqueur fût à son tour vaincu par la femme. Yoris ne voulut pas être vaincu. Il se redressa contre le découragement, le regret lancinant de Godelive. Après tout, elle l'avait trahi, le délaissa vite, sans faute de sa part, au sommet de la passion, avec cette nuance d'une désertion, puisqu'elle l'abandonna en pleine crise, dans l'incertitude de la défaite et des ruines, face à l'ennemi. Car Barbe s'était dressée véhémente et presque armée et le lapidant. Ah, l'une valait l'autre. L'excès de la faiblesse lui avait fait mal autant que l'excès de la violence. Aucune des deux n'était digne d'entraver et d'empêcher son avenir. Il se haussa à l'art, aux espoirs commencés, au noble but. L'amour de la femme est fallacieux et vain. Il s'en retourna à l'amour de la ville. Cet amour-ci, du moins, ne trompait point et ne faisait pas souffrir. Il allait jusqu'à la mort. Yoris se ressouvint, dans ce temps-là, de la fin de Von Hull et du vieux cri d'extase par qui s'était révélé l'accomplissement, à l'heure de la mort, du rêve fidèle de sa vie. Elles ont sonné. Pour se mériter son idéal, il faut ainsi s'y vouer exclusivement. Lui avait trahi son amour pour Bruges. Peut-être y avait-il moyen, par le redoublement de son zèle, d'en effacer l'interruption. Il se remit à l'œuvre avec ardeur. Il avait mieux à faire que de larmoyer sur des caprices de femmes et des amours mortes. Il fallait continuer sa propre destinée, sa vocation et sa mission. Ses travaux furent repris, des façades ressuscitèrent. Grâce à lui, on recommença à réparer, reconstituer, ressusciter les vieux palais, les anciennes demeures, tout ce qui ennoblit les villes, intercale du rêve dans les rues, met des visages de passé entre les bâtisses neuves. De nouveau, Yoris s'exalta pour son œuvre, car la beauté d'une ville est une œuvre d'art à réaliser, où il faut une harmonie, le sens des ensembles, une entente de la ligne et de la couleur. Bruges deviendrait belle, et lui-même, en récompense, jouirait, au moment de mourir, de toute sa durée, et, projeté avec elle dans les siècles, pourrait s'écrier comme Van Hull, « Bruges est belle, Bruges est belle !» D'ailleurs, ce n'est pas seulement au point de vue d'une œuvre d'art en soi que la beauté d'une ville importe. Le décor, coloré, mélancolique ou héroïque, fait les citadins à son image. Yoris discuta à ce sujet un jour avec Bartholoméus, comme il était allé le visiter pour avoir des nouvelles de ses travaux. La grande fresque, encore inachevée, symphonie en gris où il essayait lui-même d'enclore la beauté de Bruges. Exalté, il développa son idée. L'esthétique des villes est essentielle. Si tout paysage est un état d'âme, comme on a dit, c'est plus vrai encore pour un paysage de ville. Les âmes des habitants sont conformes à leur cité. Un phénomène d'un genre analogue se produit pour certaines femmes qui, durant la grossesse, s'entourent d'objets harmonieux, de statues calmes, de jardins clairs, de bibelots subtils, afin que l'enfant futur s'en influence et soit beau. De même, on ne conçoit pas un génie originaire d'ailleurs que d'une ville magnifique. Goethe naît à Francfort, cité auguste où le vieux Main coule parmi des palais vénérables, entre des murs où vit tout l'antique cœur germanique. Hoffmann explique Nuremberg. Son âme voltige sur les pignons comme un gnome sur le cadran historié d'une vieille horloge allemande. En France, il y a Rouen, aux architectures riches et accumulées, avec sa cathédrale comme une oasis de pierre, qui produit Corneille et puis Flaubert, deux purs génies se donnant la main par-dessus les siècles. Ce sont les belles villes, sans doute, qui font les âmes belles. Ainsi, Borlut s'était reconquis, agrandi aux pensées vastes et nobles. Au-dessus de la vie. Il monta au beffroi, désormais, comme s'il était monté dans son rêve, d'une marche allègre, tout allégée des vains soucis d'amour, des mesquines douleurs intimes, qui avaient trop longtemps alourdi son ascension vers les hauts buts. Il traversa une période héroïque. Le cadran de la tour lui étincela comme un bouclier, avec lequel elle se défend contre la nuit. Et le carillon chanta des hymnes altiers. Non plus une musique égoustée qu'on aurait dite les larmes de celui monté là-haut et qui pleurait sur la ville. Non plus même une musique éboulée qu'on aurait dite des pelletées de terre précipitées dans la fosse d'un passé mort. Ce fut le concert de la délivrance. Le chant mâle et libre de l'homme qui se sent délivré regarde l'avenir, domine sa destinée comme il domine la ville. Chapitre 2. Dans ce temps-là, Yoris fut sollicité par l'action. Jusqu'ici, il s'était tenu éloigné de la vie publique qui ne l'intéressait pas. C'était une politique locale, médiocre, qui s'en tenait au lieu commun, à une division factice et ancienne des habitants en deux camps hostiles, se disputant les influences et les emplois. Même les récentes poussées socialistes ne le passionnèrent pas, car c'était à brève échéance le recommencement de la vaine querelle catholique et libérale, le ralliement des anciens partis, qui n'auraient fait que changer de nom. Dès le Moyen-Âge, il y avait eu, en Flandre, cette lutte entre l'esprit religieux et l'esprit laïque, leur conflit pour la prépondérance par le dogme ou par la liberté. Et leur antagonisme s'était symbolisé dans l'air même par le clocher et le beffroi, la tour religieuse et la tour civile. Celle où se conservait le mystère dans l'hostie consacrée, celle où se gardaient les chartes et privilèges en un coffre bardé de fer. Toutes deux rivales, montées à hauteur égale, jetant la même ombre sur la ville qui appartenait ainsi pour moitié à chacune. Et elles s'éterniseraient jusqu'à la mort du soleil, indéfectibles, autant que les deux idées qu'elles résumaient, avec leurs briques se superposant à l'infini, comme les individus dans un peuple. Borlut vivait à l'écart, indifférent et un peu dédaigneux. Mais qu'est-ce quand l'action va tout à coup recommencer à être la sœur du rêve? Oh, joie! Pouvoir agir enfin, lutter, se passionner, connaître l'ivresse de l'apostolat et de la domination sur les hommes. Et cela en faveur d'un idéal, non pour s'imposer soi-même et sa médiocre vanité, mais pour imposer l'art et le beau, et mettre dans le temps un peu d'éternité. Son rêve était menacé, le grand rêve de sa vie, ce rêve d'une beauté de mystère, pour Bruges, qui serait faite de bruits tus, d'eau dormante, de rues inanimées, de cloches ouatées dans l'air, de maisons aux fenêtres longs voilées. Ville, belle d'être morte, voici qu'on voulait la faire rentrer de force dans la vie. Il s'agissait de cet ancien projet de Bruges port de mer, qui sembla chimérique au début, quand Farazine, le premier, aux réunions du lundi soir chez le vieil antiquaire, en exposa le plan. Peu à peu, l'idée avait germé, grandi face à un zèle têtu, à une propagande quotidienne. Farazine s'en était fait une arme de succès, l'outil sûr de sa notoriété. Au barreau, il avait réussi, car ce projet le mit en relation avec des hommes politiques, des gens d'affaires. Il lui donna, au surplus, une attitude de civisme dévoué. Avec sa belle faconde sonore et parlant toujours la langue rude des ancêtres de Flandre, il évoquait à toute occasion cette Bruges commerçante et marchande qu'il allait refaire dès le fonctionnement du canal, et les nouveaux bassins remplis de navires, les coffres brugeois remplis d'or. Le mirage n'était point pour déplaire, encore que la population fût somnolente, répugnante à tout effort. Elle écoutait ce tableau d'avenir comme un enfant entend une histoire, s'y distrait à peine, incline au sommeil. Borlute n'avait plus revu Farazine depuis longtemps. Depuis le fâcheux jour où son ami dîna chez lui avec Godelive, se heurta au refus de la jeune fille. Après coup, Farazine se montra fort irrité, tint rancune même à Borlute, comme s'il avait été complice de son échec. Dès lors, quand ils se rencontrèrent, Farazine l'évita, se détourna. Yoris apprit dans la suite qu'il tenait maintenant des propos hostiles contre lui. Leur inimitié s'envenima par cette affaire de Bruges-Port-de-Mer, pour laquelle Borlute tout de suite conçut une vive exaltation, s'indigna comme d'un sacrilège, comprenant bien que si le projet était voté et le nouveau port créé, c'en était fait de la beauté de la ville. On abattrait des portes, des maisons précieuses, des quartiers antiques, on tracerait des avenues, des voies ferrées, toute la laideur du commerce et des affaires modernes. Bruges allait donc se renier elle-même. L'ère de la résistance s'ouvrit. Borlute possédait une influence réelle à la confrérie des archers de Saint-Sébastien depuis qu'on l'y avait élu chef-homme. Il y alla plus souvent, se rencontra avec les tireurs, les habitués, toute une classe de petits bourgeois facilement maniables, et que la tranquillité de leur existence ne poussait pas aux aventures. Il leur fit comprendre la question. Combien il était chimérique d'espérer le renouvellement d'une prospérité finie. Combien il était criminel, pour un but incertain, de ruiner la beauté authentique de Bruges, dont la gloire dans le monde commençait. Il y avait du reste, ici, un argument personnel et qui les décida dans leur hostilité publique contre ce projet de Bruges-Port-de-Mer. Leur antique local lui-même se trouvait menacé. D'après les plans déjà produits, les nouveaux bassins, terminant le canal de jonction, seraient creusés précisément dans cette banlieue-là, à la place où s'élèvent les six pittoresques remparts, les deux moulins qui donnent à ce coin un aspect de Hollande, le local de la Gilde, couronné par sa tourelle en maçonnerie du XVIe siècle. Ainsi disparaîtrait la glorieuse tourelle, svelte et rose dans l'air comme un corps de vierge, comme la patronne qui veille sur eux depuis des siècles, et qui tomberait, assassinée par les pioches. Barbarie égale à celle des soldats massacrant Ursule et ses compagnes sur la chasse de l'hôpital. Les briques séculaires aussi, tout éraflées, allaient saigner par des plaies qui feraient mal à voir. Borlute essaya également l'opposition par des articles de journaux. Il s'était assuré une feuille locale et entreprit une campagne suivie et enflammée. Mais ici, le résultat fut mince. La presse n'a pas d'action sur l'opinion, encore moins sur les pouvoirs. Pour cette affaire de Bruges-Port de Mer, comme pour les autres affaires, tout se passa dans l'ombre, en conciliabules étroits, en audiences de fonctionnaires, en tactiques de commission. Des ingénieurs conspiraient avec des financiers et des hommes politiques. Farazine était l'âme de ces combinaisons. Il en tenait toutes les avenues. Une ligue fut fondée pour être un centre de propagande. On eut soin d'écarter, cette fois, tout esprit de parti. Le président était un échevin de la ville. Farazine fut nommé secrétaire. Un vaste pétitionnement s'organisa. Les habitants, nonchalants, craintifs au surplus, signèrent tous. Ensuite, des délégations furent reçues par les différents ministres qui acquiescèrent, promirent l'intervention de l'État, une partie des millions nécessaires. Toute la machine politique intervint. Formidable appareil, aux ressorts cachés, aux courroies sans fin, aux volants irrésistibles. Borlute sentit qu'elle allait happer la beauté de Bruges et, sous prétexte d'y toucher à peine, la broyer toute avec ses dents de fer. Borlute s'exaspéra, se multiplia. Il n'était pas sans s'étonner un peu lui-même de son zèle belliqueux. Comment en arriva-t-il à ses attitudes de combat, ses paroles après, ses défis, ce continuel branle-bas comme d'un appel aux armes? Lui qui était un homme de silence, de passé et de rêve. Mais est-ce que, précisément, il ne défendait pas son rêve? Son rêve, cette fois, s'était identifié avec l'action, l'action passionnante et frénétique. Non plus l'action contre un ennemi ou des adversaires, mais l'action contre la foule. La foule apparaissait une, par ignorance ou indolence. Il était seul. N'est-ce pas ce combat que livrent tous les hommes supérieurs, d'être soi contre tous? Il leur faut triompher de l'unanimité, qui d'abord les nie. La beauté de Bruges, dans laquelle il avait une part de collaborateur, était aussi une œuvre d'art qu'il s'agit d'imposer. Mais par quel moyen, de quelle manière vaincre une foule? Comment aller soi-même de l'un à l'autre, ouvrir de ses seules mains tous les yeux qui sont aveugles? Victoires éparpillées. Un jour, Borlut espéra se rencontrer avec la foule elle-même. Comme il avait incriminé dans les gazettes ce système d'intrigues obscures et d'une campagne menée en cachette, la Ligue de Bruges-Port de Mer y répondit en faisant appel à tous, en convoquant une assemblée publique où on communiquerait l'état de la question, les plans adoptés, les crédits nécessaires, les concours promis. Des affiches flamandes furent placardées, portant ce titre insolite et qui choquait comme un blasphème dans le calme religieux des rues. « Meeting monstre », ainsi que l'objet de la réunion et les noms des dignitaires de la Ligue. Mais ceux-ci savaient bien qu'ils ne s'exposaient à rien. Connaissant l'apathie des habitants, qui ne se dérangent guère, lisaient à peine la bruyante convocation, auraient garde de s'aventurer dans une affaire et une assemblée qu'ils ne connaissaient pas. Farazine avait prévu que Borlut tout au plus profiterait de l'occasion. C'est même lui qui eut l'idée de cette réunion publique, comme un piège où son ennemi tomberait. Borlut, en effet, n'hésita pas. Une vaillance l'enfiévra, la joie de la bataille face à face, avec la foule, enfin, et en rase campagne, après trop d'escarmouches, derrière des fourrés et des glacis. Naïf et illusionné, il crut que le peuple de Bruges allait se porter là en masse, et qu'il pourrait le persuader, l'agenouiller devant la beauté évoquée de la ville. Tous les jours précédents, Borlut fut dans une grande agitation. Il avait battu le rappel de ses plus fidèles à la confrérie des archers de Saint-Sébastien, des plus irrités contre une entreprise qui menaçait leur antique local. Il comptait, que tous les membres l'escorteraient, protesteraient avec lui contre les Vandales, écraseraient le projet sous les rires et les huées. Est-ce que le ridicule ne sert pas autant que l'indignation ? C'est pourquoi Borlut avait obtenu de son ami Bartholoméus un dessin caricatural. Cela se fit en grand secret, car l'affaire de Bruges-Port-de-Mer était patronnée par les échevins et par la ville. Or, le peintre dépendait d'eux, puisqu'il lui avait commandé des fresques pour la salle gothique de l'hôtel de ville, qui n'était encore ni acceptée ni payée. Pourtant, il frémissait d'indignation aussi, à l'idée qu'on allait changer la ville, y faire du bruit, des démolitions et du nouveau, dans un vil but d'argent. Il consentit, esquissa pour Borlut une satire aux lignes simples, dans le goût populaire, naïve et forte comme une complainte. Il y représenta des gens avec leur maison sur le dos, qui se mettaient en marche, couraient après la mer, aperçus tout au fond et en fuite à leur approche, cependant que les maisons se semaient derrière eux, pierre à pierre, et que la ville n'était plus que des matériaux. Le dessin, colorié, fut tiré en affiche, qu'on colla sur les murs, à côté des affiches du meeting de la Ligue. C'était la réponse juxtaposée, la lutte sur le même terrain, et qui nulle part ne fait trêve. Borlut vibrait, traversait une atmosphère héroïque. Combien il méprisait maintenant tous les incidents misérables auxquels il attacha de l'importance, les vexations de Barbe, les regrets de Godelive, tout cela qui est inférieur, temporaire, minime et vain. Il n'avait plus le temps de s'écouter lui-même, de souffrir pour des nuances, de s'occuper de son âme. Il vivait comme hors de lui, éparpillé dans l'action, ainsi que dans un vaste vent qui le mène. C'était fini la douleur d'être libre et d'être soi. Il appartenait déjà aux autres. Il devenait la foule. Le matin du jour attendu, qui était jour de carillon, il monta au beffroi, s'exalta dans les cloches qui sonnèrent un chant de guerre, la révolte des vieux bourdons qu'on dérange, le charivari des clochettes qu'on menace. Toute une coalition des bronzes contre ceux qui voulaient recommencer un port, ramener dans l'air des mâts où leurs volets trébucheraient. Puis ce fut un hymne d'espérance. Le thème obstiné de la mélancolie de Bruges plana, déroula par-dessus les toits sa musique grise, tout accordée avec le ciel, l'eau et les pierres. Le soir arriva enfin. Borlut avait compté sur un grand nombre d'archers de Saint-Sébastien. Il n'y en eut que deux qui le rejoignirent. Quand il entra au local du meeting, il constata vite que peu de monde s'était dérangé. Le populaire n'y était pas. Quelques petits commerçants tout au plus, dont on avait battu le rappel et qui dépendaient de l'administration. En revanche, la Ligue de Bruges-Port-de-Mer était présente. Une trentaine de membres, dont les chefs entouraient une table, couverte de draps verts, où brûlaient de maigres lampes. La salle apparaissait glaciale, avec ses bancs de bois, ses murs crépis à la chaux, son silence d'attente, ses ténèbres mal éclairées, où de rares assistants offraient des visages immobiles, rangés comme dans un tableau. Un malaise régnait. C'était une froideur de catacombe, où les paroles ont peur d'elles-mêmes, se fanent, meurent en route. On n'entendait qu'un bruit de paperasse froissée, les documents et les rapports, que Farzain, assise à la table du bureau, compulsait. Borlut s'était préparé aussi à la lutte, mais il la présagea tout autre. Qu'est-ce que cette assemblée d'aspect funéraire où quelques ombres entraient, s'asseyaient, ne bougeaient plus, avaient l'air de revenants qui recommencent à mourir? C'était donc cela le meeting monstre annoncé avec fracas? L'auditoire restait clairsemé. Pourtant, l'heure fixée était dépassée déjà. À peine, de temps en temps, un nouvel arrivant pénétrait, hésitait, s'intimidait, ouatait sa marche, allait s'installer sans bruit au coin d'un banc vide. Rares alluvions. Le groupe des assistants, toujours restreint, apparaissait une masse silencieuse, confuse aussi, car aucun n'osait ni ne désirait parler. Mais tous fumaient, et, à cause de la fumée, s'estompaient en un crépuscule gris. Leurs courtes pipes étaient surmontées d'un couvercle de métal pour contenir le feu qu'on ne voyait pas. Et c'était plus d'obscurité mêlée à plus de silence. Ils exhalaient une méthodique fumée. On aurait dit la brume sortie d'eux-mêmes, le brouillard de leur cerveau sans pensée. Est-ce là le peuple que Borlut attendait, voulait combattre, rêvait de convaincre et de vaincre? Au lieu de lutter contre la foule, il se battrait contre des fantômes, dont Pharazine seul, son ennemi, dont il sentait déjà les yeux et l'ironie braqués sur lui, réglerait l'attaque et le cérémonial. C'est donc pour un tel assaut qu'il avait combiné son discours. Un discours moins technique que lyrique, écrit au point de vue d'un auditoire impressionnable qu'il faut émouvoir pour l'entraîner. Au milieu d'une pareille atmosphère, son discours s'annulerait comme le soleil dans le brouillard. Comment n'avait-il pas prévu qu'il ne pouvait manquer d'en être ainsi? Encore une fois, il reconnut trop tard qu'il avait été si peu clairvoyant. Il aurait voulu partir maintenant, renoncer. Il n'osa pas, à cause de Pharazine qui, sur l'estrade, regardait de son côté, le défiait. La séance fut ouverte. Le président prononça une allocution, puis Pharazine lut un long rapport. En passant, il dénonça les mauvais citoyens qui se mettaient en travers d'une œuvre de prospérité et d'intérêt public. Puis multiplia les documents, les explications, les plans, les chiffres, d'où il résultait que les crédits seraient votés bientôt, et qu'ainsi, dans un avenir très proche, on pourrait commencer les travaux et réaliser cette grande œuvre de Bruges-Port de Mer. Pharazine se rassit, infatué et souriant. Quelques membres de la Ligue, intéressés dans la combinaison financière de l'affaire, applaudirent. Les assistants restaient somnolents. Leurs visages continuaient à être des visages de portrait. On aurait dit qu'ils regardaient les siècles. Machinalement, ils expiraient de leur bouche, si peu dérangée, de lentes fumées dans l'air atone. Ascensions éparses, chacun collaborait à la trame grise. On ne savait à quoi ils pensaient, ni s'ils pensaient à quelque chose. La fumée tissait son voile de plus en plus opaque entre eux et les orateurs. Aussi, après le rapport de Pharazine, le président parut disposé à lever la séance. Néanmoins, il s'enquit de savoir si quelqu'un désirait présenter quelque observation. Alors, Borlut se leva, demanda la parole. Certes, il ne se faisait guère d'illusions sur la vanité de son intervention dans un pareil milieu et de cette parade qu'il avait imaginée, à l'avance, une bataille. Mais à cause de Pharazine, qui l'épiait, et puisqu'il avait fait tant que de venir, il voulut aller jusqu'au bout. Il tira le texte de sa harangue, écrit à l'avance, et commença à lire, tremblant un peu, mais ferme, d'une conviction qu'on sentait vaillante et profonde. Il mit en doute d'abord les résultats de l'entreprise. Il ne suffit pas de creuser un canal de communication, comme on veut le faire, de relier Bruges artificiellement avec la mer du Nord. En supposant que le canal fonctionne bien sur cette distance de 4 lieues et puisse livrer passage sans arrêt aux gros navires, une ville n'est pas seulement un port parce qu'elle est jointe à la mer. Avoir des bassins, c'est quelque chose. Il faut encore et surtout posséder des maisons de commerce, des débouchés, des comptoirs, des gares, des banques. Il faut être un peuple jeune, actif, riche, fiévreux, hardi. Pour faire le commerce, il faut avoir des commerçants, amener les Juifs. Tout cela, Bruges ne le pourra jamais. Dans ce cas, être un port constitue un simulacre et un vain luxe. Borlut affirma en s'échauffant. Le but qu'on poursuit ici est chimérique. Certes, Bruges fut un grand port jadis. Mais est-ce qu'on ressuscite les ports? Apprivoise-t-on la mer et la fait-on revenir aux habitudes qu'elle a quittées? Est-ce qu'on renouvelle les chemins effacés sur les vagues? Tout en parlant, Borlut sentit lui-même la dissonance de son discours avec cet auditoire morne. Il avait supposé la lutte, la contradiction, une assemblée de vraies foules frémissantes, nerveuses, et qu'une parole sincère enivre comme une fontaine de vin. Il reconnut que tous ces mots se délayaient aussitôt, se décoloraient dans cette fumée des pipes, dans ce brouillard qu'on eût dit extériorisé et sensible dans l'air, celui du cerveau même des assistants, qui lui opposait son indolence, son invincible unanimité grise. Borlut, donc, ne les atteignait pas, ne communiquait pas avec eux. Même matériellement, il en restait séparé, car, à cause de la fumée accrue, il les distinguait à peine, dans un recul, vague comme ceux qu'on aperçoit dans le rêve ou dans le fond de la mémoire. Il se dit vite « À quoi bon ?» Pourtant, il se résigna à poursuivre jusqu'au bout, pour ne pas capituler devant Farazine, qui triomphait, le regardait d'un visage ironique, haineux aussi. Est-ce qu'il n'arrive pas dans la vie qu'on agisse uniquement pour un ennemi, afin de lui tenir tête, de le confondre, de l'humilier par un plus bel effort ou une plus difficile victoire? Sans lui, on renoncerait peut-être. Avoir un ennemi est une excitation, une force. On espère vaincre en lui l'univers et tout le mauvais sort. Donc, Borlut ne parla plus que pour Farazine. Après avoir montré l'absurdité du projet, il évoqua par contre la gloire d'être une ville morte, un musée d'art, tout cela qui était la meilleure destinée de Bruges. Sa renommée comme telle s'établissait. Des artistes, des archéologues, des princes commençaient à affluer de partout. Quel juste mépris et comme on rirait dans le monde de la savoir déchue d'un si haut rêve, et qu'elle avait renoncé à être une cité de l'idéal, c'est-à-dire quelque chose d'unique, pour se vouer à cette fréquente et mesquine ambition de devenir un port. Il mit en regard, sans nommer l'auteur, le projet de Bartholoméus, l'emploi plus utile des millions avec lesquels on pourrait acheter, rassembler tous les primitifs flamands qu'on ne verrait plus qu'à Bruges. Et il conclut avec force, « Bruges, ainsi, deviendrait un but de pèlerinage pour l'élite de l'humanité. On y arriverait quelques jours de l'an, mais de partout alors, des bouts de l'univers, comme un tombeau sacré, le tombeau de l'art, et elle serait la reine de la mort. Tandis que dans ses projets de commerce, elle s'avilit et ne sera bientôt plus que la défroquée de la douleur. » Borlut se disposa à se rasseoir. Farazine, pour couper l'effet de cette péroraison, la clôtura par une exclamation « Raisonnement d'artiste !» Artiste, c'est bien le mot qu'il fallait, la louange hypocrite, couronne de dérision. Artiste, l'épithète d'ironie définitive et qui suffit, dans cette vie provinciale, à disqualifier. Farazine le savait bien et frappa juste. Il y eut des sourires contents sur la face de l'échevin qui présidait et des autres promoteurs de l'affaire. Quant aux assistants, altérés d'avoir fumé, là des longues harangues, taciturnes sur les bancs alignés, n'ayant pas compris grand-chose à ces statistiques ou à ces périodes, impatients de regagner leur demeure close, ils attendaient. Personne ne dit plus rien. Après une minute de vaste silence où l'on entendit palpiter les maigres lampes charbonnant, la séance fut levée. Borlut sortit, mêlé à la petite assemblée qui s'écoulait, muette. Entre les murs du vestibule, c'était une masse sombre, quelque chose d'indéterminé, de machinal, un glissement silencieux qui bientôt cessa d'être. Borlut s'en alla au hasard, accompagné des deux archers de Saint-Sébastien qui lui furent fidèles et qui ne parlaient pas. Il les quitta rapidement, puis s'enfonça dans la bruge nocturne, seul, avec une volupté d'être seul. Il s'évadait comme d'un cauchemar, d'une entrevue avec des fantômes qui étaient ses ennemis. Tout cela sembla bientôt comme si rien n'avait été. Puis le sens de la réalité lui revint. Il récapitula la soirée. Son discours vint, les blêmes silhouettes, le visage hargneux de Farazine et des chefs de la Ligue. Eux seuls avaient l'air de vivre parmi ces effacements. On aurait dit qu'ils siégeaient, formaient un tribunal. Borlut eut l'impression qu'il venait d'entendre condamner la beauté de Bruges. Ah, mort ! Tout avait été réglé à l'avance. Ce fut un simulacre que cette publicité des débats et l'examen contradictoire. L'arrêt était préparé déjà. Rien ne serait empêché. Et leur port de mer, ils l'auraient. Borlut n'y pourrait rien. Il n'avait rien pu, ni convaincu personne. C'était aussi impossible que de vouloir maintenant convaincre le brouillard qui noyait la ville nocturne, flottait sur l'eau, dissolvait les ponts. Ah, la foule! Se battre avec la foule! Tout ce qu'il imaginait et qu'il enfiévra. Évaporation en fumée du feu qu'on a le plus attisé. Son discours aussi, si enflammé, et dont il espéra tant, s'était achevé comme une fumée de pluie, dans des fumées.